I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Laura Pouliquen, créatrice de contenu écrit et audio freelance, et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa. Qu'il soit artiste, entrepreneur, blogueur, sportif, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Lola Rossi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, en couple avec Laurent et maman de deux adorables petites filles. Ensemble, nous évoquons une sortie de zone de confort intime pour un thème sur l'acceptation de soi. Lola nous explique avec bienveillance et sincérité comment elle a réussi à vaincre ses troubles du comportement alimentaire et accepter son corps pour vivre en harmonie avec ce dernier. Bonjour Lola.
Bonjour Laura.
Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour un thème un petit peu spécial que je n'ai jamais abordé sur l'acceptation de soi. Je suis sûre que c'est un thème qui aidera beaucoup d'entre nous qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai envie que l'on revienne ensemble sur ta relation avec ton corps avant, pendant et après les TCA, troubles alimentaires, que tu as réussi à vaincre.
D'accord.
Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, alors moi, c'est Lola Rossi. Je suis créatrice de contenu digital sur les réseaux sociaux. J'ai 30 ans et je suis en couple avec Laurent depuis bientôt 10 ans et on a deux petites filles.
Oui, deux adorables petites filles, je précise, pour ceux qui ne te suivent pas sur les réseaux.
C'est gentil, merci.
Aujourd'hui, tu sembles vivre en harmonie avec ton corps. Ça se sent dans tes publications Instagram, dans tout ce que tu partages. Comment tu décrirais votre relation avec ton corps aujourd'hui, avec ton image ?
Écoute, bizarrement, depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai jamais été aussi bien avec mon corps, alors que pourtant il est, il a eu de grossesses, donc j'ai plus le même ventre qu'avant, j'ai plus le même corps, et puis plus tu vieillis, plus tu sais que c'est un peu difficile de perdre le petit kilo que t'as pris ou quoi. Mais pour autant, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Je me mets plus de pression, je le regarde plus. Avec dégoût, comme je pouvais parfois le regarder. Je vois un peu de la cellulite et je me dis pas, oh mon Dieu, quelle horreur, c'est dégueulasse, il faut que je fasse un régime, il faut que j'enlève ça, il faut que je fasse sexy. Enfin, vraiment, je m'en fiche complètement et j'ai jamais été aussi bien dans mon corps que maintenant, quoi.
C'est trop bien, c'est pas forcément évident et d'ailleurs, on va en reparler, on va y revenir. Surtout après des grossesses où c'est pas évident d'être dans l'acceptation de soi comme ça. Et justement, cela n'a pas toujours été le cas pour toi. Tu en as parlé sur tes réseaux en 2015 via une vidéo YouTube. Et du coup, pour expliquer, pour voir d'où remonte ce malaise avec ton corps, j'ai envie de faire un petit retour en arrière et savoir quel genre de petite fille, quelle adolescente était la petite Lola. Est-ce que tu aimais ce que tu voyais dans le miroir à une époque qui n'était pas forcément évidente ?
Oui, j'ai jamais eu de soucis petite, j'ai toujours été mince. Quand j'étais en primaire, j'étais très très mince. Donc j'avais eu 2-3 remarques de filles qui me disaient sac d'os et tout, mais ça m'a jamais plus travaillé que ça, plus perturbé que ça. C'était pas le quotidien. Je me souviens juste d'une fille en particulier qui m'avait dit une fois ça dans la cour, mais j'ai pas d'autres souvenirs plus que ça. Et enfin, j'étais pas maigre, j'étais bien dans mon corps petit, adolescente pareil. J'avais pas spécialement de soucis ni spécialement de complexes dans mes souvenirs. C'est vraiment venu à la fin du lycée. C'était en terminale, je crois. Je sais plus si j'étais en première ou terminale. Parce que forcément, c'est des périodes que tu essayes un petit peu d'occuper. Et du coup, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était vers 17 ans au lycée. Et là, j'ai commencé à complexer sur mes poignées d'amour. C'était vraiment une énorme fixette, mais un truc de fou. Avec une de mes meilleures amies, pareil, on avait... En fait, tu vois, chacun a sa morphologie. Il y a des morphologies avec la taille fine, des morphologies en H, comme dirait Christina Cordula, où tu es droite un petit peu. Et moi, j'avais la taille très marquée. Et du coup, j'avais des hanches, quoi. En fait, j'avais juste des hanches. Et pour moi, c'était des poignées d'amour. J'avais une copine qui avait la même morphologie que moi et qui avait un petit peu plus de kilos que moi, et donc du coup c'était plus stocké sur ses poignées d'amour aussi. Et vraiment, je me souviens qu'on s'est fait une fixette sur nos poignées d'amour, et j'en pleurais, quoi. Pour le coup, quand je m'habillais le matin, quand je les voyais, quand je me regardais, j'en pleurais, j'étais mal, ça me rendait malade. Et du coup, bah, c'est à partir de là qu'ont commencé mes troubles du comportement alimentaire, pour essayer, en fait, de maigrir à tout prix de ces poignées d'amour, alors que vraiment, j'étais vraiment mince. Quand je revois des photos à 15, à 17, 18 ans, j'étais vraiment mince, quoi. Je faisais un petit 36, j'avais des poignées d'amour qui n'étaient pas, en fait, vraiment des poignées d'amour, c'était des hanches, quoi. Des hanches avec une taille fine marquée, donc, et j'ai vraiment, j'ai complexé vraiment par rapport à ça vers l'âge de 17 ans. Et je suis tombée là-dedans pour essayer à tout prix d'enlever ces poignées d'amour, quoi.
Oui, complètement. Et puis je me souviens aussi, parce qu'on a le même âge, c'était aussi l'époque à des magazines en fait féminins où il n'y avait pas du tout les mouvements body positive, et on était dans les dictats de ma sœur, de minceur perdait 20 kilos avant l'été.
Alors moi, j'ai jamais ressenti ça par rapport aux magazines ou à Instagram, pour le coup. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais par rapport aux magazines, c'est pas les magazines qui m'ont complexé, c'est vraiment les nanas que je pouvais avoir autour de moi. Tu sais, moi, je suis en Corse, à Ajaccio, on va beaucoup à la plage, etc. Je sais pas du tout si c'est un rapport, mais je sais que ici, les filles sont particulièrement fines et bien foutues, tu vois. Et du coup, quand tu vas à la plage, que t'as 17 ans et que tu vois des nanas archi bien foutues et tout, et moi, j'étais là, j'ai complexé sur mes poignées d'amour, ma meilleure amie pareil, on était là, mon Dieu, mais pourquoi nous, on a ça, etc. Et c'est vraiment plus notre vie quotidienne qui nous a foutu des complexes, entre guillemets, que les magazines ou quoi. C'est vraiment, moi, ça vient pas du tout des magazines ou des réseaux sociaux, ouais, non.
Eh non, moi qui vis à Dubaï, je le vois, les nanas sont toutes hyper lookées, hyper bien foutues, et ça me crée des complexes alors que j'en avais plus. Toi, quand ce trouble a commencé, comment ça s'est manifesté au départ?
Alors du coup, en fait, moi j'ai toujours été assez gourmande. J'ai toujours, chez ma maman, tu vois, au goûter et tout ça, on avait toujours des gâteaux, des trucs au chocolat, des Kinder, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, je mangeais, j'aimais beaucoup manger, en fait, que ce soit au repas, au goûter, grignoter, etc. Je mangeais beaucoup de trucs et j'aimais beaucoup de trucs sucrés. Et en fait, j'ai essayé la privation, donc de m'empêcher de manger ces trucs-là. Mais c'était beaucoup trop frustrant parce que du coup, j'en avais trop envie, du coup, je pensais plus qu'à ça, etc. Donc en fait, j'ai fini par partir en mode, je me frustre pas, je mange ce que je veux. Mais en fait, après, à chaque fois que j'avais mangé, j'allais aux toilettes pour me faire vomir et recracher tout ce que j'avais mangé, quoi.
Et tu dis dans cette fameuse vidéo YouTube publiée en 2015, j'étais capable d'ouvrir les placards, de prendre tout ce qu'il y avait et j'ingurgitais jusqu'à ne plus pouvoir bouger, je me traînais. Je me suis personnellement reconnue dans ce que tu décris à une époque de ma vie. Toi, à quel rythme, en fait, tu avais ces troubles?
Alors, ça a démarré donc comme ça. Au début, je voulais perdre du poids, donc je me suis dit... régime, je me prive. La privation, c'était beaucoup trop frustrant. J'avais trop envie de craquer. Et ça a engendré justement ces craquages où du coup, je vais me frustrer pendant 2-3 jours. Je me privais, je mangeais pas pendant 2-3 jours. Enfin, je mangeais au repas, mais normalement, tu vois. Mais je m'interdisais aucun sucre, aucun plaisir, aucun truc. Et du coup, j'étais frustrée. Donc du coup, je craquais. J'allais dans les placards. Je mangeais tout ce que j'avais envie de manger que je m'étais interdit pendant plusieurs jours. Et du coup, après, je culpabilisais, donc du coup, j'allais vomir. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Et après, petit à petit, bah, je me disais, bah, c'est trop cool, en fait, c'est génial, tu peux manger tout ce que tu veux tout le temps, puis après, hop, tu vas vomir. Et du coup, ça a commencé petit à petit, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, et ça a pu aller à 5, 6, 7 fois par jour, quoi. À la fin de la journée, des fois, j'étais éclatée, j'avais la gorge en feu, les doigts, les mains abîmées, parce que tu t'enfonces les dents dans la gorge, quoi. Donc, t'as l'acide, les doigts, enfin, il y a des jours où c'était vraiment... C'était vraiment énormément et ça a pu aller parfois ouais, assez loin. Parfois, des fois, j'essayais de me reprendre en main, me disais « Allez, tu t'arrêtes ». J'avais qu'une seule crise, je tenais une seule crise. Parfois, je tenais un jour ou deux sans en faire aucune. Donc, j'étais contente et puis après, hop, ça pareil, ça repartait. J'étais vraiment dans une relation vraiment conflictuelle avec moi-même, avec mon corps et j'arrivais pas à me sortir de ça, quoi.
Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Est-ce que tu avais une vie sociale riche? Est-ce que tu étais épanouie? Et si oui, comment tu gérais en fait? C'était à quel moment de ta vie que ça s'est passé? Rappelle-nous.
Alors ça, c'était vraiment... Je pense que c'était terminal. J'étais encore au lycée. Donc, je faisais pas de crise la journée parce que voilà, j'allais en cours, etc. C'était plutôt donc le soir quand je rentrais chez moi. Le week-end, les mercredis après-midi. En fait, dès que j'étais à la maison, si tu veux, dès que j'étais à la maison, en extérieur, ben voilà, je mangeais normalement, parce qu'il y a quand même des repas que je gardais, tu vois. Si j'allais manger le repas du soir, j'allais manger normalement, je gardais mon repas. C'était vraiment les à côté, les grignotages. Et en fait, je mangeais mes repas normalement que je gardais matin, midi, soir. Et après, tout le reste de la journée, j'allais m'empiffrer si j'en avais envie. Et après, j'allais vomir. Et donc du coup quand j'étais en extérieur, quand j'allais manger au resto avec mes amis entre midi et deux, au lycée, à la cantine, tout ça, il n'y avait pas de souci, je gardais mes repas. C'était vraiment quand je rentrais à la maison, le soir, le week-end, les mercredis après-midi. Et après plus tard, en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur, donc ça c'était terminal. Après la terminale, j'ai commencé à travailler. Et puis voilà, c'était fini le lycée, donc j'avais une vie d'adulte, on va dire, et je me rappelle jusqu'au moment, j'ai continué mes troubles du comportement alimentaire, je pense qu'ils ont été le pire quand je suis partie à Paris avec Laurent. Au début, j'étais à Paris, donc j'avais pas de...
T'étais déjà avec lui ?
Ouais, alors quand ça a commencé, j'étais pas avec lui. Quand ça a commencé, j'étais pas encore avec lui, j'avais 17-18 ans, j'étais avec mon ex de l'époque, qui n'a jamais rien capté. Personne n'a jamais rien capté, en fait, concrètement. Ni mon ex, ni Laurent. Et quand j'étais avec Laurent, donc à Paris, ça partait très loin parce que du coup, quand on allait au restaurant, j'allais manger, tu vois, genre, je sais pas, entrée plat dessert ou plat dessert. Enfin, en gros, j'allais manger pas mal. Et du coup, comme tu vomis, tu vois, ton estomac, au final, il garde pas tout ce que tu prends. Donc, il était quand même assez vite rassasié. Et j'allais jusqu'à aller au restaurant pour me faire vomir. J'allais au restaurant, je me rappellerai toujours, avant qu'on déménage, qu'on rentre en Corse, on avait fait un dernier brunch, c'était vers Bastille, je sais plus comment il s'appelait, mais bref, c'était un brunch avec buffet, et j'avais mangé, j'étais allée aux toilettes me faire vomir, et j'avais remangé derrière. Enfin, c'était vraiment le pire engrenage quand j'étais sur Paris.
Et comment Laurent réagissait à tout ça ?
Ben, il a jamais... Je n'en ai jamais parlé. En fait, si tu veux, c'est quelque chose... Déjà, de base, tu veux pas mettre un nom dessus, tu veux pas dire que tu as une maladie, parce que dans ma tête, c'est un peu comme la cigarette. Je me disais, ouais, si je veux, j'arrête, tu vois. Je me dis vraiment, c'est pas une maladie et c'est pas un problème, puisque si j'en ai vraiment envie, avec de la volonté, j'arrête. Et au final, je me disais ça, mais au final, je n'arrêtais pas. Donc, je continuais. Et au dernier moment, je me suis dit, ben... Enfin, voilà, et à un moment donné, tu es boulimique. Donc voilà, ne te voile pas la face, t'arrives pas à arrêter, tu es boulimique. Donc j'ai mis un mot là-dessus, entre guillemets, j'ai accepté le truc. Mais pour autant, t'as pas envie d'en parler parce que t'es pas du tout quelque chose dont t'es fière. Donc tant que personne n'avait remarqué, je n'en ai jamais moi-même, enfin j'ai jamais eu envie de parler de ça à quelqu'un. J'ai jamais voulu aller voir ma mère ou mon mec pour lui dire, bah écoute, voilà, je suis boulimique, j'ai besoin d'aide, ou même sans dire j'ai besoin d'aide, mais je suis boulimique, j'ai jamais prononcé ces termes-là à mon mec, ma famille ou mes amis.
C'est très dur, en fait, cette maladie, enfin cette pathologie, je sais pas trop comment l'appeler.
Moi, ça m'arrivait tous les jours, mais pour moi, j'étais persuadée que j'étais pas malade parce que si j'avais envie et si je le décidais, je pouvais arrêter. Donc, à partir du moment où je me disais que c'est qu'une question de volonté, tu peux arrêter, c'est pas une maladie, c'est quelque chose que tu fais, mais tu es capable de t'arrêter. Et au final, Si finalement j'ai été capable après, mais c'est vrai que sur le moment j'ai quand même vécu ça pendant plusieurs années et des fois ça partait vraiment très très loin quoi. Quand j'étais à Paris justement, quand j'étais dans l'appart, des fois tu vois j'allais manger, j'allais à n'importe quelle heure de la journée, hein, je me faisais à manger, après je me disais tiens j'ai envie de chips, j'ai envie de camembert, j'ai envie d'un Big Mac, je descendais en bas de la rue, hop j'allais me faire un McDo, j'allais au truc au Spar à côté à la boulangerie acheter une baguette de pain, un camembert, un truc et je m'empiffrais. À la fin, je pouvais même plus bouger. J'étais au bout de ma vie sur mon canapé, mais j'allais quand même me lever pour aller vomir. Et une fois que j'avais tout vomi, j'étais capable de remanger pour aller me refaire vomir une demi-heure plus tard, quoi.
Ouais, c'est assez fou. Et en plus, tu dis que ça a duré plusieurs années. Et à un moment, tu dis, jusqu'à ce que personne ne le découvre, je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un l'a découvert.
À un moment donné, c'est mon beau-père qui l'a découvert. Mon beau-père qui est assez qui manque un peu de tact on va dire un peu brut de décoffrage et en fait un jour il a vu que j'étais allée vomir, je sais pas, il a dû passer aux toilettes à côté de moi, sentait le vomi ou je sais pas du tout, parce que c'est vrai que tout ça aussi c'est toute une stratégie que tu dois mettre en place quand t'es boulimique et que tu vas te faire vomir, parce qu'il faut cacher, camoufler ces odeurs, bien te laver les mains, bien te laver les dents pour qu'il n'y ait plus aucune trace de cette crise pour que personne ne le remarque. Et en fait, un jour, mon beau-père a vu ça. Et en fait, au lieu de se dire, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ou d'en parler à ma mère discrètement pour essayer de régler le problème et tout, il est remonté en mode, oh, ta fille, elle s'est fait gerber, qu'est-ce qu'elle nous fait et tout, machin. Et donc là, je me suis devenue, mais waouh, je me suis devenue violette, rouge, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit et tout. Et ma mère qui a dit, ah bon, mais non, qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi. Enfin, un truc vraiment genre, je sais pas, peut-être qu'elle avait trop mangé, ou alors voilà, tu vois. Et on n'a jamais abordé le sujet plus que ça. Et même après, tu vois, même après quand j'ai fait justement cette vidéo et que j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, etc. Jamais ma mère m'a dit, tu veux qu'on parle de cette période? Mon mec m'a dit, enfin, jamais personne ne m'a reparlé de cette période.
Et toi, tu n'as jamais ressenti le besoin de le dire à une copine ou à quelqu'un de ta famille?
Non, parce que pour moi, c'était un peu, j'avais honte quand même, tu vois, enfin. C'était pas un truc dont t'es fière et dont t'as envie de parler, et j'ai jamais ressenti le besoin. Parce qu'en plus de ça, enfin voilà, à côté de ça, j'étais heureuse dans ma vie et tout. Enfin, c'était assez paradoxal parce que je me sentais pas malheureuse et tout, et je me sentais pas. Je faisais pas ça parce que j'étais mal dans ma vie ou mal dans ma tête ou quoi. C'était juste physiquement, je voulais absolument perdre du poids, perdre mes points d'amour. Je faisais toujours cette fixette sur mon complexe et tout. Mais sinon, à côté de ça, j'étais bien. Et du coup, je ressentais pas le besoin d'en parler. C'était un peu mon truc dans lequel je m'enfermais dans ma bulle. Mais c'était mon petit secret à moi. J'avais pas besoin d'en parler à qui que ce soit, quoi.
Et du coup, est-ce que tu te sentais plus belle, plus mince?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus de ça, voilà, même si tu... Enfin, quand tu manges tout ce que je pouvais manger dans une journée, même si tu vas te faire vomir, tu perds pas du tout de poids, quoi. Donc, j'ai pas du tout perdu de poids. Au contraire, l'année où j'étais à Paris, j'ai grossi. Et c'est justement après cette année à Paris, quand on est rentré à Ajaccio, où là, je me suis dit, c'est plus possible, là, reprends-toi en main, quoi.
Et justement, on va parler de la manière dont tu les as vaincus. Déjà, pour situer, ça a duré combien de temps en tout?
Donc dans mes souvenirs, ça a commencé vers 17 ans et je suis rentrée de Paris en 2013. Donc j'avais 23 ans, donc ça a duré 4-5 ans, quoi. Avec des phases plus ou moins intenses. J'ai eu dans ces 4-5 ans des moments où c'était juste comme ça le week-end, quand j'étais justement au lycée et tout. Ou quand j'étais avec mon copain, justement, que je faisais pas ça. En fait, je faisais vraiment ça quand j'étais toute seule. Donc, du coup, tous les moments où il y a tout le temps du monde chez toi, ou tout le monde du monde autour de toi, etc., ça m'arrivait rarement. Donc, il y a eu des phases plus ou moins intenses, mais ça a duré en tout à peu près 5 ans. Ouais.
5 ans, c'est très long. Est-ce que tu as constaté des dégâts sur ton corps?
Alors, heureusement, non. J'ai eu de la chance pour ça. J'ai pas eu de soucis. J'avais juste, ça se voyait. En fait, c'est ça que je me disais. Là, des fois, je me disais, je vais me faire griller. C'était mes mains, parce que les doigts, tu vois, qui tu mets dans ta gorge, qui frottent sur tes dents et qui sont irrités par l'acide, etc. J'avais les mains, j'avais la main droite qui était assez abîmée tout le temps. Donc, j'étais tout le temps en train de m'hydrater tout ça. Mais non, sinon, j'ai eu de la chance de pas avoir spécialement de dégâts. Pas de problème aux dents, pas de problème aux cheveux, pas de problème d'ordre hormonal après pour les enfants, tout ça. Enfin, j'ai pas eu de soucis du tout, non.
Ouais, justement, j'y pensais parce que l'anorexie, justement, ça fait des dégâts aussi au niveau de la fertilité. Et donc, tu es revenue en Corse à ce moment-là, tu as décidé de les vaincre. Est-ce que tu dirais que c'était plutôt un déclic ou un cheminement qui a duré plusieurs semaines ou plusieurs mois?
Non, ça a été quand même un déclic où je me suis dit, justement, je suis rentrée. J'ai vu que malgré toutes ces crises et malgré le fait que j'aille vomir derrière, bah, j'avais quand même grossi. J'avais pris beaucoup de poids, je me plaisais encore moins qu'avant. Là, je me suis dit, mais en fait, là, je me trouve encore plus dégueu que quand j'ai commencé à faire ça parce que j'avais un petit complexe de poignée d'amour, quoi. Donc, là, je me supportais pas du tout mon regard dans le miroir. Et je me suis dit, là, stop, il faut se reprendre en main, il faut reprendre du sport, une bonne hygiène de vie, manger équilibré, arrêter ces crises, etc. Et j'avais bien compris que ces crises étaient parties du fait que j'avais voulu me priver de mes plaisirs, de mes goûters, de mes petites touches sucrées, de mon plaisir, en fait. Et je me suis dit, là, il faut arrêter ça. Et par contre, il faut pas que tu repars dans un truc de privation pour maigrir. Il faut que ça prenne plus de temps pour maigrir. Ce sera pas grave, mais il faut que tu remanges normalement et sans te priver, quoi.
Et qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, car c'est très dur de faire ça par soi-même? Est-ce que tu as vu un coach, par exemple?
Non, j'ai fait ça toute seule. Et en fait, ça correspond un petit peu à mon arrivée sur Instagram. puisque, tu sais, à l'époque, mon compte, c'était Eat Clean Fit. J'avais, en fait, ouvert ce compte au début de ma reprise en main, en fait, pour justement reperdre du poids, tout ça, et arrêter mes TCA. Donc j'avais ouvert ce compte et en fait je partageais dessus un petit peu comme un journal de bord. J'allais partager quand je faisais mes entraînements sportifs, mes assiettes de ce que je mangeais, quand j'étais contente de m'être fait un bon repas équilibré, etc. Je prenais en photo et en fait et à côté de ça j'avais comme j'expliquais dans ma vidéo, je m'étais acheté un carnet. Je suis fan de papeterie depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle, même en primaire et tout, au collège avec mes amis, on s'achetait des cahiers, on écrivait tout plein de trucs. J'avais tout le temps, tu sais, on s'achetait des... Tous les week-ends, ma mère me donnait de l'argent de poche et je m'achetais un feutre. À l'époque, c'était un feutre un peu pailleté, là, tu sais, pour écrire, bref. Et donc, je m'achetais ça et j'avais une collection de papeterie dingue. Et depuis toujours, j'ai toujours adoré les beaux cahiers, adoré écrire, bref. Et donc, quand je me suis dit que j'allais me reprendre en main, je me suis acheté un beau cahier, un beau stylo et tout. Et je me suis dit, vas-y, tu démarres ton journal de bord, en gros. Et je veux que tous les soirs, quand je regarde ma journée et tout ce que j'ai mangé et tout ce que j'ai fait, je sois fière de moi, tu vois. Et en fait, ce truc-là, ça a aussi... venu de... Quand j'étais plus... Vraiment, quand j'étais petite, j'ai fait pipi au lit très tard. Parce que j'avais des problèmes de reins, d'infection urinaire, etc. J'ai eu des contrôles à l'hôpital petite tous les mois pendant longtemps. Et bref, tout ça pour dire que j'ai fait pipi au lit très longtemps. Et pour réussir à arrêter ça, en fait, je me rappelle que mes parents m'avaient justement fait un cahier et tous les jours je devais mettre un soleil quand j'avais pas fait pipi au lit, que je devais mettre un nuage, une averse quand j'avais eu un accident, etc. Et en fait, j'ai eu ce truc en tête et je me suis dit, bah vas-y, tu vois. Et j'avais déjà ce truc d'être fière le soir, le matin quand t'es contente, t'as fait ton petit soleil et tout, t'as pas fait pipi au lit, bref. Et du coup, je me suis rappelée un peu de ça et je me suis dit, bah vas-y, je vais me faire un petit cahier de bord et je vais tous les jours mettre tout ce que j'ai mangé, même si j'ai mangé du chocolat, si j'ai fait une crise ou un truc dans le genre, je note tout en fait. Le but, c'était vraiment à la fin de la semaine de regarder un peu en arrière sur ma semaine et de voir les progrès en fait, de constater les progrès. J'avais besoin de ce truc visuel, pas juste de me dire ouais c'est bien, j'ai pas fait ça. J'avais besoin que ce soit écrit, de le voir et d'être fière de moi, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que j'ai arrêté en fait, en partageant avec mon petit cahier, en voyant les améliorations, les crises qui s'est passées, que je mangeais bien, en partageant sur mes réseaux sociaux mes repas, mes entraînements. Du coup, c'était un petit peu le début des comptes healthy de l'époque. Et y avait des nanas aussi comme ça qui partageaient pareil. Et en fait, ça faisait même comme un groupe d'entraide. Tu postais un repas et Nana te disait « Ah ouais, c'est trop bien, ça me donne des idées. » Tu voyais ce que d'autres filles postaient et toi aussi, ça te donnait des idées. Vous échangez, enfin... C'est vraiment ces deux choses-là qui m'ont aidé à sortir de ça.
Et tes inspirations, c'était des filles qui te suivaient, que tu suivais, tu faisais ça via Instagram surtout?
Non, pas spécialement. Je faisais avec... Comme je suis partie de chez ma mère à 18 ans, donc je me suis toujours fait à manger depuis mes 18 ans. Là, à cette époque-là, j'avais 22 ans, si je dis pas de bêtises, à peu près, quand je te dis ça. Donc voilà, en fait, je faisais avec... Je savais me faire à manger, je savais bien me faire à manger, et en fait je cuisinais juste des trucs que j'aimais. Tu vois, j'adore le saumon, j'adore les avocats, j'adore les salades et tout. Donc du coup, j'essayais de faire des repas que j'aimais. Je prenais vraiment plaisir à les manger à chaque fois le midi, que ce soit assez équilibré. Et puis voilà, après je finissais. Si j'avais envie de sucre à la fin, je finissais par une touche sucrée. Quand j'avais envie de goûter un morceau de chocolat, enfin de manger du chocolat à 4 heures, je mangeais du chocolat à 4 heures. C'était vraiment, il fallait que je m'autorise tout, mais rien dans l'excès comme avant, quoi. Ni dans l'excès de privation, ni dans l'excès de nourriture.
Ouais, complètement, bien sûr. Et est-ce que tu te souviens, du coup, du moment où tu as décidé d'arrêter ce carnet et tu t'es dit, allez Lola, c'est bon, maintenant je vole de mes propres ailes et je me fais du bien sans retomber dans les TCA?
C'est vraiment fait progressivement, en fait. Petit à petit, quand j'ai ressenti que j'avais plus de crise, que je mangeais équilibré, que tout se passait bien, j'avais perdu du poids et retrouvé un corps dans lequel je me sentais bien. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, j'ai plus besoin d'écrire tout ce que je mange tous les jours, parce que c'est devenu instinctif. Je savais quoi me faire, je savais comment manger, quand, j'avais plus besoin de réfléchir et j'avais plus besoin de noter tout ça pour être fière de moi, puisque j'ai estimé que j'étais guérie entre guillemets, et que j'avais plus besoin de mon cahier, quoi. Petit à petit, je l'ai abandonné, en fait. J'ai commencé de moins en moins écrire dedans mes repas, puisque ils étaient bien. Et puis après, je l'ai complètement délaissé du jour au lendemain, quoi.
Et du coup, autour de toi, tu as créé une communauté de fit girls, d'healthy girls. Et au moment où tu as décidé de publier, quel était ton credo Instagram? Est-ce que tu étais déjà dans le lifestyle, ou est-ce que tu étais plus sur une image fit girl?
Quand j'ai commencé sur Instagram et tout, je partageais tout ça, mais sans vraiment dire que j'étais boulimique, que je faisais crise ou quoi. Je l'avais un petit peu laissé sous-entendre dans quelques 2-3 posts un petit peu où j'avais déjà discuté avec des nanas par rapport à ça, etc. Mais sinon, j'en avais jamais clairement parlé, et du coup, mon compte était vraiment fou des fitness. Et petit à petit, je me suis épanouie dans ma vie aussi. Je suis sortie de tous ces troubles du comportement alimentaire, donc je me sentais mieux. Et en fait, j'ai commencé à partager sur mes réseaux tout ce que j'aimais dans mon quotidien. Donc, il n'y avait pas que le sport et la bonne alimentation. Donc, j'ai commencé à partager mes looks, mes shopping, mes voyages, etc. Et c'est une fois que tout ça, c'était vraiment derrière moi, complètement lointain, que j'étais bien dans ma vie, assez installée sur les réseaux sociaux, c'est quand j'ai déménagé à Porto-Vec avec mon chéri. 2015, je me rappelle, j'étais dans la chambre de l'appart à Porto-Vec, et c'est là que j'ai fait cette vidéo où je me suis dit, je saurais même plus te dire pourquoi je l'ai faite, mais j'avais hésité à en parler, puisqu'effectivement, du coup, c'est un sujet que je n'avais absolument jamais abordé avec les gens de mon entourage. Il me semble que je l'avais fait parce que justement, en discutant avec des filles, des abonnées qui me disaient qu'elles avaient des troubles, qu'elles n'arrivaient pas à s'en sortir, etc. Et elles me disaient, putain, moi aussi, je suis passée par là. Donc, tu pourrais raconter ton expérience, ça pourrait servir à des gens. Et c'est pour ça, dans mes souvenirs, que j'avais fait cette petite vidéo.
Est-ce que tu as eu peur quand tu as cliqué sur mettre la vidéo en ligne?
Ouais, carrément. Carrément, parce que c'est un truc dont t'as jamais parlé, c'est un truc dont t'es pas fière, c'est un truc que ton entourage très proche ne sait pas particulièrement, l'a plus ou moins deviné, mais le sujet n'a jamais été abordé. Et puis t'as peur aussi de ce que les gens vont dire, surtout parce qu'il y a des... Du coup, c'est lancé sur Internet, quoi. Ça y est, les gens savent que tu as eu ça. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et puis, tu sais pas trop les gens, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont dire. Bon, après, j'avais pas non plus super peur, sinon je l'aurais pas fait, parce que dans ma tête... Ça allait être que positif et ça ne pouvait que aider les gens, tu vois. Ça pouvait pas forcément spécialement me desservir. Moi, c'était fait, c'était passé. Donc, j'avais pas non plus super peur, mais c'était quand même un pas en avant de raconter cette histoire sur les réseaux sociaux, quoi.
Et tes proches derrière, quand tu as publié cette vidéo, comment ils ont réagi?
Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, non. C'est toujours resté, je sais pas, je savais même pas pourquoi. Enfin, je sais pas, des fois, je me dis, me dis peut-être faudrait que je leur demande pourquoi ils sont jamais peut-être que pour eux c'est justement peut-être que dans l'imaginaire des gens qui n'ont jamais vécu ça c'est pas une maladie et c'est un petit caprice d'ado ou je sais pas du tout, mais c'est vrai que on en a toujours à l'heure actuelle jamais parlé quoi. Donc je peux pas te dire, je sais même pas s'ils ont vu cette vidéo parce qu'après voilà, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos que je poste dans mon entourage, mais ouais, on en a jamais parlé.
Du coup, on va passer au conseil, ton rapport à ton corps aujourd'hui. Mais avant, il me semble que tu avais créé un groupe aussi Facebook pour aider les filles à partager autour de ce sujet.
Mais en fait, justement, je me suis dit, moi, j'en ai jamais parlé autour de moi, mais j'en avais parlé avec certaines filles sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, en fait, la meilleure façon de pouvoir communiquer là-dessus, c'est d'en parler finalement avec des gens que tu connais pas, avec des gens qui ne jugeront jamais, qui font pas partie de ton quotidien. Si tu as envie un jour de... Enfin, tu vois, elle pouvait totalement décider du jour au lendemain de plus écrire, de disparaître. Et voilà, on n'aurait jamais... Elle pouvait pas... Enfin, tu vois, on n'était pas... on s'imposait pas dans leur vie, etc. Donc, elle pouvait totalement disparaître du jour au lendemain si elles avaient plus envie de communiquer sur leurs troubles du comportement alimentaire, etc. Et du coup, je me suis dit, voilà, le meilleur truc possible, c'est d'en parler avec des inconnus. Et suite à la vidéo, je me suis dit, je vais créer un compte Facebook parce que j'ai eu tellement, mais tellement, tellement, tellement de messages qui me disaient, moi aussi, je vis ça, je sais pas comment m'en sortir. Et pour tout type de troubles, c'était autant de la boulimie, de l'anorexie, de l'hyperphagie. Il y avait vraiment plein d'histoires différentes. C'est là d'ailleurs que j'ai appris enfin plein de choses. Enfin pour moi voilà, il y avait anorexie, boulimie et je savais pas trop spécialement tout ce qu'il pouvait y avoir différent. Et du coup, j'ai créé ce groupe pour qu'elles puissent bah voilà, échanger entre elles et je me rappelle dans le groupe, il y avait des filles, tu vois, quand elles étaient pas bien, mais souvent, j'avais remarqué que ces nanas, elles étaient pas bien dans leur vie en fait, c'était pas spécialement que leur rapport au corps. Elles avaient un mal-être plus profond que juste le physique. Et c'est tout souvent, voilà, elles avaient un problème familial, un problème dans leur vie. Et là, elles écrivaient sur le groupe en disant, là, ça va pas, j'ai envie de traquer, etc. Et du coup, d'autres filles répondaient, bah, écoute, on est là, si tu veux parler, machin. Enfin, c'était hyper sympa d'échanger comme ça.
Ouais, c'est trop bien. Je crois que ce groupe, par contre, il n'existe plus aujourd'hui.
Ouais, non, le groupe Facebook n'existe plus. En fait, il fallait que parce que comme, justement, c'était, je voulais que ce soit, que les filles se sentent complètement libres et à l'aise pour parler, c'était un groupe qui était fermé. Donc en fait, il fallait c'était sur invitation. Il fallait m'envoyer un mail, j'ajoutais au groupe pour que en gros personne de l'entourage de toutes les filles qui allaient écrire sur ce groupe, personne de leur entourage ne pouvait voir les commentaires parce que tu sais sur Facebook quand tu commentes la photo d'une copine, tu peux le voir dans les notifications. Donc là, c'était vraiment le truc qui était fermé et si tu n'étais pas rentré dans ce groupe, tu pouvais pas y avoir accès. Donc les nanas pouvaient écrire tout ce qui leur passait par la tête en totale confiance, parce que ça restait vraiment entre nous. Et donc, petit à petit, ben, j'ai accepté beaucoup, beaucoup de filles sur ce groupe, qui échangeaient, etc. J'avais quasiment plus de demandes, donc du coup, je rentrais plus personne. Et les filles, petit à petit, ont, avec les années, enfin, les mois, les années, petit à petit, ont arrêté d'écrire et ce groupe a disparu, quoi. Mais après, si quelqu'un a envie de le recréer, allez-y. Hein, ça, je pense que ça a beaucoup aidé certaines filles.
Aujourd'hui, tu reçois encore des messages par rapport à ce trouble ?
J'en reçois quelques-uns, oui. J'en ai reparlé un petit peu en story l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il me semble que j'avais fait une petite story à la une pour reparler un peu du sujet et justement comment j'avais arrêté de faire des crises de boulimie, mais ça m'arrive de recevoir des messages pour me demander oui comment t'as réussi à vaincre ça toute seule quoi, parce que moi j'arrive pas, mais ça devient assez rare.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut en finir avec les TCA?
Que personne va essayer, enfin personne n'arrêtera à sa place, faut vraiment se mettre un petit coup de pied au cul hein, moi c'est ce que je me suis dit hein. Enfin voilà, je suis rentrée à Ajaccio et là je me suis dit non, stop, c'est plus possible pour ta santé, pour tout, parce que voilà, c'est pas humain d'aller se faire vomir aux toilettes d'un restaurant après avoir mangé quoi. Donc ouais, il faut vraiment se booster, se dire que on est capable d'y arriver. Pour moi, c'est un peu comme arrêter la cigarette quoi. Quand t'es un gros fumeur, bah c'est hyper compliqué, mais tu peux le faire. Donc ça demande beaucoup de volonté, faut se dépasser, mais c'est possible, tu peux t'en sortir.
Il y a aussi beaucoup de filles, en fait, qui ont ces troubles pour plaire à leurs parents, à leurs compagnons, pour aussi répondre à des proches qui leur font des remarques. Moi, par exemple, je me souviens qu'à l'école, j'avais une copine qui était devenue anorexique parce que son père lui disait que c'était la plus belle des grosses, enfin, des remarques comme ça. Toi, penses-tu que quand on reçoit ce genre de remarques, il faut en parler autour de soi ?
Alors moi, j'ai jamais vécu ça, donc je pourrais pas te, enfin, j'ai pas d'expérience personnelle, mais c'est sûr que si quelqu'un m'avait dit ça, enfin, après, je sais pas, parce que sur le moment, enfin, je sais pas, j'imagine que si ta mère, elle te dit, ouais, t'as un peu grossi, tu vas te retrouver un peu con, tu vois, tu vas même pas lui dire, bah, pourquoi tu me dis ça, enfin, enfin, je me dis, si ma mère demain, elle me dit ça, je vais faire genre, ah, ah bon, ok, d'accord, donc j'ai pas vécu le truc, donc je saurais pas te dire, mais moi, par contre, à l'inverse, en tant que maman, je vais pas spécialement en parler à mes enfants, enfin parler de ces troubles du comportement alimentaire, etc. Mais au contraire, je vais essayer de les éduquer de la manière la plus bienveillante possible, la plus positive possible, pour que, ben quoi qu'il arrive, elles se trouvent belles, qu'elles soient bien dans leur peau, qu'elles se sentent pas obligées un jour de s'interdire de manger, de se priver. Ou à finir avec dodo dans la bouche pour aller se faire vomir après avoir mangé, quoi.
Tu penses que tu leur parleras un jour de tout ça, tes filles ?
Je sais pas. Bah, si elles m'en parlent, peut-être, mais je me dis, quand elles sont en âge d'en parler, elles auront certainement pas eu vent de l'histoire. Donc, ouais, je pense pas leur en parler, sauf si un jour, justement, je vois qu'elles vivent quelque chose comme moi. À l'inverse de ma mère, du coup, comme j'ai vécu ça, si demain je vois le moindre signe sur mes enfants, j'irai entamer une discussion directe pour leur dire que voilà, je suis là pour elles, pour partager aussi, pourquoi pas, mon histoire, etc. Donc, pour le coup, moi, je dialoguerai, j'en parlerai. Parce que je me dis que peut-être si quelqu'un l'avait fait, ça aurait pas duré aussi longtemps.
Ouais, bien sûr, c'est ça. Et après, en plus, c'est dur à détecter, j'imagine. Faut être vraiment très attentif. Et justement, toi, tu es maman de deux bébés rapprochés. Combien elles ont d'écart ?
Elles ont 1 an et 5 jours d'écart.
Ouais, donc très rapprochés. En plus, c'est pas une période évidente. Moi, je sais que j'ai pris 16 kilos pour ma grossesse. Et pour les reperdre, j'ai un peu déconné avec la food. Toi, comment tu as vécu ça pendant tes grossesses, le rapport à ton corps ?
Alors justement, suite à mon historique et à mon passé, quand j'ai su que j'étais enceinte, et même avant d'avoir un enfant, je m'étais toujours dit, purée, le jour où je vais avoir un enfant, niveau corps, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué justement de pas retomber là-dedans, de m'accepter et d'accepter les kilos, etc., pour qui sont nécessaires à la fabrication d'un enfant, d'un être humain dans ton ventre, tu vois. Et donc déjà, j'avais déjà pensé à ça en me disant, le jour où je serai enceinte, ça va être chaud de passer ce cap. Le jour où je suis tombée enceinte, je me suis dit, ouais, comment ça va se passer niveau physique, parce que voilà, j'étais guérie, je me convenais comme ça physiquement, mais t'as toujours peur d'avoir voilà, la peau qui craque, de prendre trop de kilos, de pas réussir à les perdre, enfin. Tu penses à ça quand même, et c'est vrai que quand je tombe enceinte, je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Mais pour le coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai complètement lâché prise, c'est-à-dire que je pensais plus du tout à mon corps, en fait. Enfin, je pensais pas spécialement à l'esthétique de mon corps, et après, comme j'étais bien dans ma vie, à ce moment-là, à l'instant, enfin, le jour où je suis tombée enceinte de ma première, j'étais hyper équilibrée pour le coup. Enfin, je faisais pas mal de sport, je mangeais très bien, j'avais vraiment plus du tout de troubles du comportement alimentaire, j'avais plus d'excès de quoi que ce soit. Et du coup, bah, je suis tombée enceinte et je me suis dit, bon, bah, t'es enceinte, tu vas prendre du poids, ton corps va changer, c'est normal, tu fabriques un enfant. Mais continue ta routine, en fait. Voilà, ça se passait bien sans enfant, donc ça a bien se passé en étant enceinte. Donc, en fait, j'ai continué à faire mon sport avec l'accord de mon gynéco, évidemment, mais j'ai continué à faire mon sport en adaptant aussi ma pratique, forcément. Mais j'ai fait mon sport, j'ai mangé équilibré, j'ai continué à manger, en fait, les mêmes repas que je mangeais avant. Zéro frustration, j'avais envie d'aller au resto, de prendre un dessert, manger un fondant au chocolat, je mangeais. Et on m'a détecté pendant ma première grossesse, par contre, un problème de thyroïde. J'avais une hypothyroïdie ou une hyper, je sais plus. Et en gros, en fait, j'avais le truc qui fait que normalement, quand t'es pas soigné, tu stockes facilement en fait. Enfin, genre t'as du mal à perdre du poids et donc du coup j'ai eu du lévothyrox pendant ma première grossesse pour Emma pour équilibrer ce problème de thyroïde. Et du coup, j'ai très peu pris de poids pendant ma grossesse. Pour Emma, j'ai pris 7 kilos. Donc, autant te dire que j'avais juste tout dans le ventre, quoi. Franchement, j'ai juste continué comme j'étais avant, c'est-à-dire sport, bonne hygiène de vie. Et j'ai eu ce truc de lévothyrox. Donc, est-ce que ça a joué ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que j'avais déjà des problèmes de thyroïde avant ma grossesse? Je ne sais pas, puisque je n'avais jamais fait de test avant. Donc peut-être que toute ma vie aussi, j'ai fait cet TCA en mode parce que c'était horrible quand j'avais mes troubles du comportement alimentaire, ce qui était démotivant, c'est-à-dire que des fois pendant une semaine, un mois, tu vas faire à fond du sport, bien manger et tout ça, tu pars en voyage 4 jours, tu vas manger au resto tous les jours, tu fais plus de sport, tu reprends tout. Mais j'étais là, c'est pas possible. Je regarde un hamburger et je prends 2 kilos, moi, tu vois. C'était donc peut-être qu'au final, j'avais déjà des problèmes de thyroïde avant et que je l'ai jamais su. Toujours est-il que voilà, j'ai découvert ça pendant ma grossesse. Donc j'étais sous lévothyrox, j'étais suivie, etc. Et j'avais pas du tout de régime particulier à suivre. Par contre, hein, c'était pas un problème de diabète gestationnel ou quoi. Donc voilà, c'était juste des problèmes de thyroïde. C'était réglé avec le lévothyrox. Et au final, la fin de cette grossesse, j'avais pris que 7 kilos. Donc j'avais pris du poids nulle part ailleurs que dans mon ventre, quoi. Donc dès que j'ai accouché, une semaine après, j'étais comme avant, quoi.
Ouais, donc quand tu retombais enceinte une nouvelle fois, c'est pas comme si t'avais tous ces kilos à perdre à l'avance.
Ah ouais, non, il me restait pas de kilos. Au contraire, j'avais même perdu 1 kilo. J'avais 1 kilo de moins qu'avant d'être enceinte d'Emma. Donc ouais, quand je suis retombée enceinte, j'ai même pas trop pensé à ça. J'ai quand même un peu pensé à la peau de mon ventre. Je me suis dit, oula, de grossesse rapprochée, est-ce que mon ventre va pas prendre trop trop cher quand même? Mais sinon, non, j'ai pas pensé au poids, en fait. J'ai pas pensé au poids ou à l'apparence, c'est juste la petite idée de ma peau du ventre. Et puis, j'ai appris ma deuxième grossesse, j'étais déjà à 3 mois, en fait. Donc, ma première fille, Emma, avait 6 mois, et là, je vais chez le gynéco et j'apprends que je suis enceinte de 3 mois, quoi. Donc, du coup, en 3 mois, tu vois, j'avais pas pris de poids non plus, j'avais rien vu en fait avant. Donc.
Et aujourd'hui, en tant que jeune maman, moi je le suis aussi, donc je sais que c'est parfois compliqué. On a des fringales quand bébé dort pas, on mange la nuit parce qu'on est juste fatigué et qu'on dort pas. Toi, comment tu as géré l'après en fait grossesse quand tes petits bouts étaient en âge de pas faire leur nuit, et comment tu gères aujourd'hui ton rythme alimentaire?
Alors pour le coup, j'ai eu la grande chance de pas spécialement connaître les nuits où tu dors pas, parce que j'ai eu 2 bébés vraiment hyper cool, hyper dormeurs et tout, et paisibles, on va dire. Donc j'ai jamais eu la fatigue de la jeune maman, tu vois. C'est un truc que la plupart des nanas connaissent, beaucoup de mes copines connaissent, de filles de mon entourage, et moi j'ai beaucoup de chance à ce niveau là j'ai jamais été spécialement fatiguée. Après, de base, je suis une très petite dormeuse aussi. Mais j'ai jamais été fatiguée de mes enfants parce qu'ils dormaient pas ou parce qu'il voilà, il fallait gérer la nuit, etc. Pas du tout. Donc du coup, de ce côté-là, j'ai jamais eu une fringale de nuit ou une fringale le matin en me réveillant. Par contre, là, quand j'ai faim, je mange, en fait. Et en plus de ça, maintenant, tu vois, il y a les goûters des enfants. Parfois, j'achète des petits gâteaux et tout. Si j'ai envie d'en manger un avec elle, je mange avec elle. Je m'en fous complet, quoi. Ouais.
Qu'est-ce que tu penses du mouvement body positive?
Je trouve ça cool que ça existe. Après, c'est pas forcément. Enfin, en fait, maintenant, j'ai tellement une relation hyper saine avec mon corps que je pense même plus à tout ça. Enfin, je me pose même pas de questions là-dessus. Tout est naturel et tout est fluide. Je fais du sport parce que j'ai envie de m'entretenir, et puis c'est mon équilibre aussi mental. Enfin, ça me fait du bien physiquement, mentalement, tout ça. Au niveau de la nourriture, je mange équilibré la plupart du temps. Parfois, je mange hyper pourri, mais je m'en fous complet. Enfin, vraiment, j'ai plus du tout de problème avec mon corps, avec la nourriture, tout ça. Et du coup, c'est vrai que je m'intéresse plus trop forcément à ce qui se fait et tout, parce que je suis hyper en harmonie avec moi-même, quoi.
Ouais, c'est peut-être aussi que tu mentalises moins aujourd'hui, justement, depuis que t'as tes filles.
Je sais pas, mais j'ai jamais autant aimé. Enfin, je me suis jamais autant senti bien dans mon corps que maintenant, alors que il est beaucoup moins bien que avant d'avoir mes 2 enfants, tu vois. Mais Mais pour autant, là, tu vois, j'ai de la cellulite sur les fesses. Bon, j'ai fait le LPG parce que c'était cool, on m'a proposé tout ça. Je continue de faire du sport et tout. Mais je m'en fous, quoi. Je vais pas me dire... Enfin, jamais ça va m'arriver de me dire, bon, allez, là, ah, faudrait que j'arrête un peu le sucre et tout parce que là, j'ai pris un peu du gras et tout. Enfin, vraiment, je m'en fous, quoi. Si j'ai envie d'arrêter le sucre parce que, bah, parce que j'ai envie de manger moins sucré, moins ci, moins ça, je vais le faire. Mais c'est pas juste pour être bien physiquement ou pour correspondre à un truc ou quoi. Vraiment, j'ai plus du tout de problème là à ce niveau-là, quoi.
On va finir par des petites questions maintenant.
Voilà.
Tes citations préférées.
Carpe diem. Carpe diem, c'est tatoué sur mon poignet. C'est je vis au jour le jour tout le temps. Je me pose pas trop de questions, je réfléchis pas spécialement. Je fais toujours en fonction de ce qui se présente à moi, quoi.
Tes routines pour être bien physiquement ou mentalement?
Physiquement, ouais, d'entretenir le sport. Mentalement, c'est aussi le sport parce que ça me fait du bien, parce que ça se permet d'évacuer tout, de penser à rien, de aussi te dépasser quand tu penses que t'es au bout de ta vie, que tu pourras pas faire un exercice de plus. Ben si, hop, t'y vas, tu fonces, c'est mental, ça, c'est dans ta tête. Le sport, ça joue beaucoup et physiquement et mentalement. Après, mes petites routines, mes petites routines pour être bien dans ma tête, c'est pas spécialement une routine, mais c'est vraiment c'est mes enfants, c'est ma famille, mes amis, c'est mon équilibre en fait, la plage qu'on a à côté de la maison, d'aller prendre l'air, d'aller me promener, d'aller voir prendre un bon bol d'air et voir la mer, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui participe énormément à mon bien-être mental.
Ta plus grande peur?
Ma plus grande peur, j'en avais pas trop jusqu'à maintenant. Maintenant que j'ai des enfants, ma plus grande peur, c'est qu'il leur arrive n'importe quoi. Un accident, du harcèlement à l'école, qu'ils soient pas bien dans leur tête, qu'ils aient n'importe quel problème. Ma plus grande peur, c'est que mes enfants ne soient pas bien, quoi.
Tes livres préférés?
Mes livres préférés. Alors, niveau développement personnel, tout ça, quand je suis sortie de mes TCA, d'ailleurs, j'avais lu... des livres un peu développement personnel, du coup c'était L'Art du Bonheur et Les Quatre Accords de Toltec. Et sinon je suis très une grande amatrice de romance, et du coup j'adore les histoires d'amour, les livres d'amour et tout, ça me fait du bien, je trouve, j'aime bien les trucs un peu positifs comme ça et avec plein d'amour. Et j'ai adoré les trois tomes de Jojo Moyes qui sont Avant toi, après toi, après tout.
Un échec et une leçon que tu en as retiré?
Bonne question. Un échec et une leçon. Du coup, j'ai pas spécialement vécu ça comme un échec. Et au contraire, la leçon, c'est que quand on veut, on peut. Enfin, tu peux te donner vraiment les moyens d'atteindre ton objectif. Et si beaucoup passe par le mental, par la tête. Et moi, c'est ma belle-mère, la mère de mes petites sœurs et la femme de mon père qui m'a toujours, toujours, toujours répété cette phrase. Quand on veut, on peut. Et du coup, je pense que c'est resté un peu dans ma tête et c'est un peu mon leitmotiv aussi. Et j'essaie de faire en sorte que quand je veux, je peux, quoi.
Et ta définition, selon ton histoire personnelle, de sortir de ta zone de confort?
Par rapport à mes TCA, ma zone de confort, c'était un petit peu c'était un peu, même parfois c'était ma copine, tu vois, genre quand j'étais toute seule, notamment quand je pense à Paris, c'était un peu mon truc de réconfort. Et à un moment donné, il a fallu que j'abandonne ça, que je reprenne une bonne hygiène de vie, et parce que sur le long terme c'était pas possible comme ça. Donc il a vraiment fallu que je me booste pour sortir de cette petite routine confortable, même si ça l'était pas du tout. Mais il a vraiment fallu beaucoup de motivation pour me sortir de ça, quoi, et retrouver une vie plus équilibrée.
Merci beaucoup, Lola.
Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode.